RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Allez, c'est parti, prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes, tout en prenant soin de la planète. Alors, si vous ne connaissez pas le mode d'emploi de cette émission, c'est extrêmement simple, écoutez bien. Si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil de jardinage, vous appelez le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou alors vous envoyez un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et notre jardinier du jour, vous l'aimez beaucoup, c'est Pascal Aspe. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes jardinier formateur à Terre Vivante, on est ravis de vous entendre et on aura des petits cadeaux à vous offrir à partir de 10h30. Comment va votre jardin, mon cher Pascal?
Ah ben là, on a l'impression que ça commence à se réveiller. Il y a eu une dizaine de jours là où il a fait, allez peut-être pas 10, mais quelques jours où il a fait soleil bien beau, bien chaud. Et en fait, on a les noisetiers qui ont commencé à fleurir, les cyclamens qui sont sortis. Alors, je dis pas que c'est normal et que c'est bien, parce que c'est un peu tôt, mais c'est quand même particulièrement agréable de jardiner au soleil au mois de janvier.
Vous êtes en Isère, je le rappelle, Pascal. Ça va en ce moment? Pas trop froid, pas trop de pluie, des températures de saison début février?
Des températures, on va dire, peut-être pas de saison, des températures plutôt chaudes là, ces derniers jours. Et du coup, il avait pas mal plu en janvier. On est en Isère, alors nous, on est un peu en altitude, on est à 800 mètres d'altitude. Et du coup, les sols étaient pas mal mouillés avec la pluie. Et là, avec les quelques jours de soleil, ça a ressuyé. Les sols sont moins mouillés. Et du coup, ça nous permet de faire un peu plus de jardin. Parce que comme les sols sont pas mouillés, on peut un petit peu plus bricoler dans la terre.
Voilà, Pascal Aspe qui a pris ses 5 cafés, qui est en pleine forme pour répondre à toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Un thème que vous avez choisi ce matin, ce sont les bonnes pratiques au jardin.
Oui, on finit la trilogie. On avait fait connaître et soigner son sol en volet 1 dans les grands principes du jardinage. On avait fait le deuxième grand principe du jardinage, accueillir la biodiversité. Et là, on est vraiment sur les bonnes pratiques au jardin. Et les bonnes pratiques au jardin, on va creuser l'idée de la bonne plante au bon endroit, au bon moment. Et donc du coup, ça nécessite plusieurs choses. Un, de respecter le calendrier de culture. Donc, si Melchior, je vous dis que les tomates se plantent en mai, c'est qu'elles se plantent en mai et pas en février et pas en août. Et donc, du coup, pour que la plante soit bien, il faut respecter ça. Mais il y a aussi des petites astuces qui sont très, très potagères. Donc, du coup, là, on parle pas du jardin d'ornement et tout ça. On parle vraiment du potager qui sont les associations de plantes et la rotation des cultures. Donc, les associations de plantes, c'est qui je mets à côté de qui pour gagner de la place, pour perturber les ravageurs. Et la rotation des cultures, c'est qui je mets après qui pour limiter notamment les maladies. Et tout ça, en fait, c'est les bonnes pratiques de l'organisation du jardin dans l'espace et dans le temps.
Et ça, c'est accessible pour tout le monde? Tout le monde peut faire ces associations?
Ouais, alors c'est toujours un peu, quand on en parle avec des gens, tous ceux qu'on voit à Terre Vivante, c'est toujours un peu l'usine à gaz, quoi. Parce que du coup, il y a quand on regarde dans la littérature, il y a beaucoup d'exemples d'associations, et du coup, il y a un peu, les gens, enfin, on a tendance à trouver ça un petit peu compliqué. Tout le monde peut le faire, mais il faut être capable, au début, quand on veut les faire, de un peu nettoyer, en fait. Moi, ce que je conseille au début, donc des associations, il y a plein d'idées dans les associations de plantes. Si je peux mettre deux plantes côte à côte, parce que elles occupent pas le même espace, et du coup ça me permet de gagner de la place. Par exemple, vous faites des haricots grimpants et au pied des haricots grimpants vous mettez une plante coureuse au sol, une courge, un concombre, et du coup vous avez gagné de la place parce que un occupe la verticalité et l'autre occupe l'horizontalité. Et donc du coup vous avez fait deux cultures sur un seul endroit. Les associations, ça peut être mettre des fleurs pour attirer les pollinisateurs, ça peut être mettre des plantes à côté d'autres pour gérer la fertilité. Il y a plein d'exemples. Moi, je pense que quand on débute et qu'on n'a jamais fait d'association, c'est bien de se concentrer sur le gain de place. Oui. Pour se dire, ok, le but des associations, c'est d'avoir plus de plantes au même endroit pour faire un petit jardin qui produit.
C'est ce qu'on appelle la technique du compagnonnage.
Oui, oula, qu'est-ce qui s'est passé?
C'est dur à dire.
C'est la technique du compagnonnage, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée de les mettre côte à côte, et quand on les met côte à côte, il faut qu'elles s'entendent bien. C'est-à-dire que les premières erreurs, ça va être de mettre côte à côte deux plantes qui n'ont pas les mêmes besoins de culture. Par exemple, vous avez envie de cultiver de l'oignon et vous avez envie de cultiver de la salade. Ben, la salade, il va falloir l'arroser régulièrement pour qu'elle soit jolie. L'oignon, si vous l'arrosez trop, eh ben, il va avoir tendance peut-être à pourrir. Et du coup, ce n'est pas un compagnonnage possible parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins de culture. Donc la première chose qu'on regarde quand on veut mettre deux plantes côte à côte, c'est est-ce qu'elles ont les mêmes besoins en termes de besoin en eau, besoin d'ensoleillement peut-être et tout ça. Et après on se dit ok, est-ce que j'ai un avantage à faire ça? Et du coup si on peut simplifier pour les gens, moi je trouve il y a deux techniques à retenir. Il y a un, associer des plantes verticales, haricots grimpants, etc. avec des plantes horizontales. Donc par exemple haricots grimpants, courge ou tomates qui grimpent et au pied des tomates des concombres ou du basilic. Du coup ben, vous utilisez l'espace au sol. Et l'autre technique pour gagner de la place en compagnonnage, c'est associer des cycles longs et des cycles courts. Un cycle long c'est une plante qui va mettre beaucoup de temps à grandir, un cycle court c'est une plante qui va plus vite. Exemple d'un cycle long, le chou ça met beaucoup de temps à grandir. Quand vous plantez des choux, entre vos choux vous avez un espace vide pendant plusieurs mois. Et ben quand vous plantez une ligne de choux, entre vos choux mettez des salades. Et ben du coup les salades vont occuper cet espace vide pendant 2 mois. Au bout de 2 mois vous récoltez la salade et le chou aura commencé à refermer l'espace entre deux choux. Et donc sur une même ligne vous aurez fait 2 productions. Et ben moi je trouve que quand on débute, c'est ces choses-là qu'il faut aller chercher. Ça simplifie un peu le compagnonnage.
Voilà, toutes vos questions de jardinage et même d'ailleurs liées au compagnonnage, on les attend au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Un message de Laurent, enfin une question plutôt. J'ai 2 lauriers roses à rempoter, achetés l'année dernière en juin, déjà fleuris. Puis-je le faire maintenant ou dois-je attendre le printemps ?
Oui, oui. Alors, je ne sais pas d'où il est, Laurent.
Je ne sais pas.
Ok. D'habitude, le laurier rose, c'est une plante plutôt pourtour méditerranéen. Donc, on va faire assez simple. On va dire que s'il habite dans une région qui est pas trop froide, il peut le faire maintenant. Il n'y a pas de souci. S'il habite dans une région où il fait vraiment très très froid, comme c'est plutôt une plante du pourtour méditerranéen, s'il rempote maintenant, il va un peu casser les racines et tout ça. En février, il peut faire encore froid et la plante, bah, elle va pas adorer. Donc, s'il est dans un climat un peu limite, ben, il attend que les gelées soient passées et il fait plutôt ça en mars. Voilà. Donc, allez, il habite à Nice, il fait ça maintenant. Il habite à Chamonix-Mont-Blanc, il attend le mois de mars-avril.
Vous avez des lauriers, vous, en Orisère?
Non, on n'a pas de lauriers parce que on est trop en altitude, terre trop argileuse. Du coup, malheureusement, pas de lauriers. Moi, j'ai grandi dans le sud où il y avait beaucoup de lauriers. Mais du coup, voilà, moi, j'ai fait une croix sur les mimosas aussi. J'adore le mimosa et pas de mimosa à terre vivante.
Vous avez grandi où, Pascal? On n'en a jamais parlé, tiens.
Un mélange entre Perpignan et le Gard, à côté de Nîmes. Voilà. Et du coup, vraiment, et j'ai appris à jardiner plutôt du coup dans le sud, voilà, avec beaucoup de mes grands-parents qui étaient à Perpignan, enfin à côté de Perpignan, et beaucoup de potagers faits à Perpignan dans les Pyrénées, quoi. Donc du coup, voilà. Et puis migration en Isère, voilà.
C'est là où vous avez appris votre accent aussi.
J'imagine.
Dans le sud. on va pas relever. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, le laurier rose. Est-ce que c'est une plante qui est difficile à entretenir?
Non, c'est assez, généralement, c'est assez, alors c'est toujours pareil, et d'ailleurs, la question, elle est raccord avec le sujet du jour. Quand on dit les bonnes pratiques, de la bonne plante au bon endroit au bon moment, eh ben, c'est aussi être capable de choisir les végétaux qu'on met qui soient adaptés à notre environnement. Donc si vous mettez un laurier rose dans un climat qui lui va bien, donc pas trop froid, etc., il va être bien. Si vous mettez un laurier rose dans un climat beaucoup trop froid, et du coup, il n'est pas habitué à ça, eh ben là, il va être galère à entretenir. Donc, le laurier rose, c'est plus facile, mais si vous le mettez au mauvais endroit, ben forcément, ça marche pas.
Donc, voilà, il faut bien choisir son emplacement. Je reviens sur la technique du compagnonnage. Donc, vraiment pour, on le rappelle, faire des associations de plantes au jardin. Est-ce qu'il faut avoir quand même un grand jardin ou ça peut se faire même avec des places un peu plus limitées?
Oh, ça peut se faire avec des places un petit peu plus limitées sans aucun problème parce que l'idée justement c'est d'essayer d'optimiser l'espace et gagner de la place. Donc oui, ça peut se faire avec des places un peu plus limitées. On va dire que la principale difficulté, c'est que quand on débute, qu'on n'a jamais fait de jardin, c'est vrai que des fois ça paraît un peu compliqué de le faire dans la tête. Mais oui, ça se prête à tous les types de jardinage parce que une des idées du compagnonnage, c'est justement de gagner de la place. Donc dans un petit jardin, il n'y a aucun problème.
Voilà, donc c'est accessible à tout le monde. Et si d'ailleurs vous avez besoin de conseils pour mettre en place ce compagnonnage, n'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr. Alors on a justement une question de Thomas qui souhaite planter un kiwi auto-fertile Isaïe, je ne sais pas comment vous connaissez Pascal.
Oui, je connais, mais alors je pense qu'on dit Isaïe, mais je ne sais
Isaïe,
pas trop en fait.
Ouais. Et y a-t-il un risque d'étranglement du pêcher ? Est-ce que cette plante est adaptée au climat du sud-est et résiste au gel également ?
Non. Alors du coup, planter le kiwi, c'est pas tout à fait comme le kiwi. Ça fait plutôt des petits kiwis, on va dire. Ça résiste généralement assez bien au gel. Nous, par exemple, on a du kiwi à terre vivante. Donc, il n'y a pas de problème pour le planter dans le sud-est. La seule chose qui peut arriver, donc je sais pas où il est dans le sud-est, mais à mon avis, le climat est largement assez chaud. Nous, notre kiwi, pour donner un exemple, à terre vivante, il vit, il va bien, il pousse. La seule chose qui n'arrive pas, c'est que les fruits n'arrivent pas à maturité. C'est-à-dire que du coup, il fait pas assez chaud pour que les fruits mûrissent, mais il fait largement assez chaud pour que la plante grandisse. Donc, si on imagine qu'à 800 mètres dans les Alpes, ça passe, on peut largement imaginer que dans le sud-est de la France, ça va passer. Donc, aucun problème pour le kiwi Isaïe. D'habitude, les kiwi, il y a des mâles et des femelles. Eh ben là, il a quelqu'un qui est auto-fertile et donc du coup, avec un seul plan, ça sera mâle et femelle à la fois, donc il n'a pas besoin d'en acheter deux.
Donc kiwi et pêcher, ça fonctionne.
Ah, alors ça, c'est.
C'était
différent.
Ça la question.
Parce
aussi.
Que du coup, mais oui. C'est pas comme du coup, ils veulent faire grimper sur le pêcher.
Bah, je sais pas.
Et oui, c'est
Thomas,
ça.
En fait, si vous nous entendez, bah, appelez-nous.
Alors,
hein.
Oui. Alors le faire grimper sur le pêcher, à mon avis, ça me semble un doux rêve dans le sens où ça a 10 fois la vigueur du pêcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une liane, je sais pas si vous avez déjà vu des kiwis ou des kiwi, c'est absolument gigantesque. Et donc du coup, s'il veut faire grimper ça dans un pêcher, il va largement prendre le dessus du pêcher. Donc du coup, le pêcher à terme, il aura plus de vigueur. Donc je pense pas que ça soit une bonne idée, c'est plutôt des choses qu'on fait grimper sur des murs ou sur des structures.
Bon, bah ça, voilà, ça répondra à Thomas qui nous a donc envoyé ce mail. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler parce que je vois que je reçois beaucoup de mails d'un coup, mais c'est aussi sympa de vous entendre au 04 72 38 20 23. Une autre question, celle de Blandine à propos des rosiers qui nous dit mes rosiers sont déjà prêts à se réveiller, couverts de bourgeons. On a l'impression que le printemps est déjà prêt à exploser. J'habite dans le Mâconnais. Est-ce que je peux déjà les tailler ou attendre mars sera plus adapté?
Eh ben, attendre mars sera plus adapté. Moi, j'ai fait un atelier à côté de chez moi, donc à Grenoble, et il y a une participante qui m'a amené aussi un bout de son rosier où les bourgeons avaient commencé à débourrer, à démarrer. Et généralement, quand on taille, eh ben, des fois, le rosier réagit et ça active un peu plus ce démarrage. Donc vraiment, s'ils ont commencé à démarrer, malheureusement, vous y pouvez rien, mais ne taillez pas parce que en taillant, vous allez peut-être encore plus aggraver la situation. Attendez, et avec un peu de chance, les bourgeons ne gèleront pas.
Donc on attend un petit peu du côté de Blandine. Hein. Voilà, ça c'est le conseil que vous transmettez. Bernadette, dans un massif situé à l'ombre et occupé par des arbustes et des fleurs diverses, l'hépatite des fontaines prolifère ainsi que la mousse. Comment s'en débarrasser de façon naturelle? L'hépatite des fontaines, je crois que c'était une maladie ça, mais...
Je préfère pas connaître vos soirées, là, sur le coup, mais...
Pourquoi
L'hépatite. Alors, le truc, c'est que hépatite des fontaines et mousse, c'est des choses qui vont venir quand on est à l'ombre et sur des sols qui sont toujours un petit peu humides. Et donc, s'en débarrasser, j'ai envie de dire, c'est pas possible. C'est parce qu'en fait, elles sont là parce que c'est un massif à l'ombre et que le sol est humide et que du coup, elles occupent l'espace qu'elles sont les seules à pouvoir occuper. Et donc, j'ai envie de vous dire, la seule façon de virer ça, eh ben, c'est d'ensoleiller le massif. C'est tout. C'est-à-dire que du coup, elle dit que c'est un massif un peu à l'ombre. Eh ben, du coup, il faut tailler tous les végétaux pour que le soleil rentre. Si elle ne fait pas ça, eh ben, du coup, les plantes, elles reviendront toujours. C'est comme ça, c'est normal, c'est leur écosystème.
Ah, d'accord. Je me suis trompé de... En fait, Bernadette a écrit hépatite et c'est l'hépatique. Hein, Pascal, si je ne me trompe pas. C'est pour ça que je parlais de maladie.
C'est l'hépatique des fontaines. Ça pourrait ressembler un peu à un lichen et ça vit dans les milieux humides. Et donc vraiment entre mousse et hépatique, c'est vraiment milieu humide. Et donc du coup, milieu, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, la plante est venue résoudre le problème du massif. Le massif est à l'ombre, il y a de la place, les végétaux s'y mettent, si elle essaye de les enlever, elle va passer toute sa vie à les enlever, en fait.
Voilà, l'hépatique des fontaines. Je découvre des plantes avec vous, c'est formidable, Pascal. La première auditrice à nous rejoindre, c'est Monique, et vous habitez à côté de Caen. Bonjour, Monique.
Non, j'habite à côté de Nantes.
De Nantes. Oh là là, bah, décidément. Bonjour Monique.
Bonjour. Alors, je vais me permettre de lire ce que j'ai marqué pour m'en rappeler.
Oui.
Alors, je sème mes graines en jardinière pour faire mes plants. Et je les mets sur le bord de mes fenêtres. À partir de quel mois le plus tôt puis-je le faire? Alors, beaucoup. Je fais les graines de tomates.
Ok. Donc, bonne question. Grosso modo, dites-vous, alors là, il y a un petit calendrier. Alors, on va dire qu'une tomate, à partir du moment où vous la semez et le moment où vous avez produit un plant qui est prêt à être planté, il va se passer, selon vos conditions de culture, selon si c'est optimum ou pas, entre un mois et demi et deux mois. Donc, grosso modo, vous vous dites, quand je sème ma tomate, deux mois après, j'aurai un plant prêt à être planté. Donc, si vous décidez de mettre les tomates dans le jardin le 15 mai, eh ben, vous semez le 15 mars. Vous semez le 15 mars, deux mois après, 15 avril, 15 mai, les plants de tomates sont prêts. Par contre, si vous faites des courges, des courgettes, ça ne met qu'un mois à produire un plant prêt à être planté. Donc, si vous semez des courges, des courgettes, il faut pas les planter le 15 mars. Il faut les semer, je veux dire, le 15 avril. Parce que si vous les semez trop tôt, eh ben, ils vont rester dans les pots et vous aurez des plants énormes qui auront un peu faim dans les godets. Donc, quand on produit ces plants, il y a une espèce de séquence. On fait pas tout au même moment. On regarde combien de temps on va mettre à produire un plant prêt à être planté. Et puis, du coup, on décale le calendrier comme ça. Donc, les tomates, 15 mars, les courgettes, 15 avril, pour planter tout le monde le 15 mai.
Voilà Monique.
D'accord, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Allez, de nous avoir appelés au 04 72 38 20 23. Et si on continuait avec Yvonne tout de suite. Yvonne, vous habitez proche d'Angers, bonjour.
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 Je voudrais savoir comment faire pour conserver mon anisodontéa.
Oui.
Qui n'a plus qu'une branche. Parce qu'il avait eu trop sec il y a quelques années, il n'a plus qu'une branche et elle est très longue. Est-ce que je peux le tailler?
Oui, alors l'anisodontéa, ça ressemble à une fleur de mauve ou ça fait comme une fleur de rose trémière pour ceux qui n'ont jamais trop vu. Mmh. Et ça fait généralement une espèce de buisson. C'est plutôt une plante qui va aimer un petit peu. C'est assez facile à cultiver, mais c'est plutôt une plante qui va aimer la chaleur, on va dire. Donc du coup, vous l'avez dans un pot ou vous l'avez dans la terre du jardin?
Dans un bac de 1 mètre carré.
Ok, vous avez dans un bac de 1 mètre carré. Eh ben du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de la renourrir. Parce que du coup, elle aime bien les sols assez riches en nourriture. Mmh. Donc du coup, vous apportez de la nourriture et surtout, vous faites aider si besoin. Vous essayez de décompacter, d'aérer le mélange où elle est plantée dans le bac, parce que souvent dans les bacs, les terreaux ont tendance à se tasser avec le temps. Et donc du coup, la plante, elle va pas aimer ça. Donc vraiment, essayez de la sortir du bac, de réaérer le terreau ou la terre, de la renourrir et de remettre la plante, parce que c'est peut-être parce que ses racines sont pas bien qu'elle a les branches qui ont séché.
Voilà. Pardon Yvonne, je suis désolé, on comprend pas du tout ce que vous dites. Je crois qu'il y a un petit problème avec la liaison téléphonique. Essayez de nous rappeler pour voir si ça peut fonctionner un peu mieux. Je sais pas Pascal si vous avez compris ce qu'a dit Yvonne.
Oui, je crois qu'elle disait qu'elle était un peu haute un petit peu et du coup oui. Ça je peux comprendre parce que normalement c'est un arbuste qui peut faire 2 mètres de haut et du coup je peux comprendre que si la plante est grande, eh ben à rempoter c'est un petit peu galère donc je pense qu'il faut se faire aider. Oui.
Bon. Eh ben bon courage Yvonne, merci beaucoup de nous avoir appelé au 04 72 38 20 23. Il est 10h19, on va écouter de la musique Pascal, on a pris déjà 4 minutes de retard dans notre plan, vous vous rendez compte? Alors, oui, surtout vous. Alors, je vous propose soit une chanson de Patrick Fiori, soit une chanson de Zao de Sagazan ou de Francis Cabrel.
Oh, on peut savoir ce que c'est. J'hésite entre Zao de Sagazan et Francis Cabrel. C'est quoi Francis Cabrel?
Un morceau de Sicre.
Ah, je connais pas.
Ah, c'est sa dernière chanson.
Allez, un petit Francis, la cabane au fond du jardin.
Un petit Francis, et puis dans un instant, on accueillera Odile et Léonie au 04 72 38 20 23 dans cette émission. Prenez-en de la graine, votre émission de jardinage préférée.
La belle Toulouse se réveille dans son palais d'autobus. C'est la
même journée que la veille, la chaleur en plus. Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. C'est un immense mystère, on est d'ici 100%. Quand on part, y'a rien à faire, on demande, on revient quand. C'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air, va savoir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clottes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et eau l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale. Ici, tous les ballons sont ovales et n'importe qui dans la foule aura toujours dans sa malle un cochonnet et des boules. C'est une terre qui nous fabrique, on grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Qui se promène, les fées l'ont fait, troubadour, il a la tchatche soudaine, il a la tchatche tout court, c'est une urbaine musique qui vient du fond de l'histoire. Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir, et tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et eau l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout pour faire une capitale.
J'adore.
Ah ouais, c'est pas mal, hein.
Je suis très Francis, quoi, quand même.
Ouais. Ça m'étonne pas, vous avez un accent un peu commun, quand même.
Mais c'est quoi, sucre? C'est quoi un morceau de sucre?
Eh ben, c'est pas un sucre. Et sucre, c'est un musiciens de son équipe. Voilà. Et donc, c'est un hommage à cet homme qui s'appelle Claude Sucre. Voilà.
Ok.
Allez, bon, on va continuer notre émission de jardinage.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Pascal Aspe, jardinier, formateur à Terre Vivante, qui répond à toutes vos questions. 04 72 38 20 23. On continue avec Odile. Bonjour Odile.
Oui, bonjour Michael, bonjour tout le monde, à tous les auditeurs. Je suis en Angers, j'ai deux rosiers, j'ai plusieurs rosiers, mais là, ce qui me pose problème... J'ai un très vieux rosier qui me venait de mon papa, mais très très ancien, et puis un rosier blanc. Bon, et ils n'ont pas du tout défleuri.
Oh.
Et là, j'ai encore devant moi de très belles roses blanches sur un de mes rosiers. Il est très haut, il faut que je le rabatte tous les ans. Mais là, je peux pas parce que et l'autre, c'est pareil, il grandit. Mais je peux rien faire là, puisqu'il y a des fleurs.
Et Odile, je précise que vous êtes à Angers.
Oui.
Eh ben, c'est parce que vous avez peut-être pas vraiment eu d'hiver encore, je sais pas.
Comme tout le monde.
Comme tout le monde, ouais, et comme beaucoup de monde en tout cas. Et du coup, ben, il a, si ce n'est continué à fleurir, il a au moins gardé ses fleurs assez longtemps, quoi. Des fois, ça arrive, ils arrivent à garder les fleurs en assez longtemps en fin de saison. Et ben, du coup, le risque avec ça, c'est qu'il se fatigue quand même, parce qu'il, en fait, il a besoin d'une période de repos, normalement de dormance. Et du coup, effectivement, ça va pas être génial, ça risque de le fatiguer. Après, ça doit pas forcément. C'est vrai que normalement les rosiers se taillent plutôt en hiver ou en tout début de printemps quand ils sont au réveil. Si vraiment il est devenu trop grand et que ça vous gêne, ça doit pas vous empêcher de le tailler. Par contre, même conseil que pour la dame précédemment, si vous décidez de le tailler, taillez-le un petit peu plus tard, parce que si vous le taillez maintenant et qu'il est pas bien endormi, eh ben ça va l'activer, il va faire des nouvelles pousses, et si derrière il y a un coup de froid, il y a tout qui va casser. Voilà, ça ne doit pas vous empêcher de le tailler peut-être au mois de mars, mais par contre vraiment attendez le mois de mars pour ne pas le réveiller trop tôt.
D'accord. Donc là pour l'instant je laisse, il fleurit, bah, tant mieux, ça fait des belles fleurs.
Bah, vous avez
vous
n'avez
pas le choix et en même temps vous y êtes pour rien, donc autant en profiter, quoi.
D'accord.
Voilà, bon, Odile.
Parce que je m'inquiétais, je me disais bon, si je le taille, il y a encore de la sève et ça va le faire mourir, bah,
c'est,
non ?
C'est pour ça, attendez encore un peu, ouais.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Odile.
Avec plaisir.
Merci
bonne
pour votre
journée,
appel. Mais c'est gentil à vous aussi. Ça arrive souvent, ça, Pascal Aspe,
Ouais, bah, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent. Ouais, c'est le climat. Ça arrive de plus en plus souvent de voir des trucs qui passent pas l'hiver, qui rentrent pas en dormance, voire qui fleurissent en plein cœur de l'hiver. Enfin, voilà. C'est arrivé des fois de voir des arbres qui fleurissent au mois de décembre d'un coup, paf, parce qu'il n'y a pas eu d'automne, il y a le redoux, hop, on refleurit en décembre. Donc, ouais, c'est pas génial, génial.
Ça demande de s'adapter beaucoup plus, d'après vous ?
Ah ben oui. En fait, ça va demander peut-être dans les années à venir de changer un peu les types de végétaux qu'on met en place au jardin, hein, qu'ils soient potagers, d'ornements ou fruitiers, parce qu'effectivement, le climat change, les printemps arrivent plus tôt, voire n'existent pas, parce qu'ils sont en continu là en présence, les gelées n'arrivent plus, il y a de la sécheresse, donc peut-être qu'il va falloir commencer, et d'ailleurs il y en a plein qui ont commencé à le faire, à changer un petit peu ces végétaux, parce que dans 10 ans, le climat ne sera plus du tout le même.
Bon, à suivre, hein, mon cher Pascal. Une question de Laurent, j'ai des graines d'allium. D'hélium, alors je ne sais pas.
Allium.
Allium, voilà.
C'est de l'ail, quoi.
Ah oui, d'accord. Puis-je les semer encore en février ou est-ce trop tard ?
Oui, non, carrément. Vous pouvez encore les semer en février. Il y a pas de souci. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est plutôt que pour l'allium, on a plutôt tendance à planter des bulbes. C'est-à-dire que on récupère non pas des graines. Alors je pense qu'il a vraiment des graines, mais d'habitude on récupère des bulbes un peu comme un bulbe de tulipe ou comme de l'ail de cuisine, vous voyez. C'est plutôt comme ça qu'on fait avec l'allium. Par contre, si on part avec les graines, les semis se font généralement fin d'été, début d'automne, parce que du coup on aime bien que ça ait germé avant l'hiver, mais moi j'ai envie de vous dire, maintenant le climat étant comme il est, tentez-le en février, ça se trouve ça va démarrer très tôt et ça se passera quand même très bien.
Et donc, en pleine terre ou sous un abri?
Oh, plutôt dans des pots, parce qu'en fait c'est très très petit les graines d'allium, d'ail, et la pousse de l'ail au début elle est vraiment toute petite, donc du coup si vous mettez en pleine terre dehors, vous allez pas savoir vraiment les reconnaître des autres, donc plutôt en pot, voilà, pour pouvoir reconnaître la pousse.
Allez, on va marquer une petite pause dans Prenez-en de la graine, dans un instant on accueillera Léonie, François, Marie-Hélène, c'est déjà, y a déjà des bouchons, bah tiens, comme sur les autoroutes, au standard, au 04 72 38 20 23, n'hésitez pas à nous envoyer des mails avec toutes vos questions de jardinage à l'adresse direct@rcf.fr. Et dans un instant, on a un petit jeu, on a des cadeaux. À tout de suite.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec Pascal Aspe, jardinier, formateur à Terre Vivante, qui répond à toutes vos questions. Ça va, François ? Ça va, Pascal ?
Ouais, ça va bien.
Eh bien, très bien. Avec un cadeau en plus pour nos auditrices et auditeurs ce matin. Ce très beau magazine, Les 4 saisons de Terre Vivante, avec un hors-série que vous proposez de remporter ce matin.
Oui, un hors-série sur la forêt-jardin, ou le jardin-forêt, comme vous voulez, dans l'idée de se dire que l'on peut mélanger des arbres et des légumes, des arbustes et des arbres, et donc de faire, de se créer une espèce de d'écosystème chez soi, où du coup toutes les hauteurs, toutes les strates seront cultivées pour avoir vraiment quelque chose de productif à tous les étages et quelque chose qui va mieux résister parce qu'il y aura de l'ombre, parce qu'il y aura beaucoup de végétation qui va plutôt résister aux perturbations. Donc voilà. Un hors-série sur la forêt-jardin avec des retours d'expérience de gens qui en ont depuis plusieurs années et des infos pratiques pour essayer de le faire chez soi tranquillement à son rythme.
Ah oui, avec des témoignages de pionniers et des spécialistes des jardins-forêts hein, pour vraiment recueillir leur retour d'expérience et tous leurs bons conseils. Et on vous fait gagner quelques exemplaires de ce hors-série du magazine des 4 saisons. Jardin, forêt, expérience et témoignages. Et pour tenter d'en remporter un, et non pas d'en rempoter un, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr avec vos coordonnées. Et bonne chance à tous. Et on accueille Léonie. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre émission. Alors, trois questions.
Trois. Alors, on va plutôt viser une question, Léonie.
Je vais résumer ça. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer à préparer son potager? Comment retourner la terre? Voilà, c'est une.
Okay.
Et notre deuxième question, que peut-on associer avec des courgettes? Parce que j'aime bien faire des courgettes, mais des fois ça réussit, des fois ça ne réussit pas bien. Donc okay.
Voilà, deux
okay,
questions.
Merci, résumé en deux.
Ouais, merci Léonie.
Oui, donc en grosso modo, je sais pas où vous êtes en France, mais le jardin, il va commencer au mois de mars. Donc généralement, on préfère commencer à travailler la terre, à le faire à l'automne pour que le jardin soit prêt au printemps. Si c'est pas fait, eh ben en fait, vous pouvez commencer à le faire dès maintenant, dès le mois de février et durant tout le mois de mars, vous pouvez commencer à aérer les sols avec des outils, à les nourrir avec du compost. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les sols ne soient pas trop mouillés. Si votre sol il est trempé parce qu'il a plu pendant des jours et des jours, ne le touchez pas, vous allez l'abîmer. Donc grosso modo, vous l'avez pas fait à l'automne, ben février-mars, ça va être les mois où vous pouvez travailler les sols pour que du coup les sols soient prêts à accueillir les premiers semis qui arrivent généralement aux alentours de début mars, 15 mars, voire début avril pour les plus tardifs. Donc voilà pour quand c'est qu'on peut commencer. Et qu'est-ce qu'on peut associer avec des courgettes? Ben, en fait, c'est pas facile d'associer des trucs avec des courgettes parce que les courgettes, ça devient énorme. Ça, quand c'est réussi, ça prend beaucoup de place et du coup, c'est très dense, très serré. Du coup, pour associer quelqu'un avec les courgettes, faudrait à la limite, j'ai jamais expérimenté, mais mettre quelque chose qui monte en hauteur. Donc, à la limite, pourquoi pas du maïs qui va passer au-dessus et qui va sortir au-dessus de la courgette. Mais la courgette, c'est tellement vigoureux, ça aime tellement le soleil et c'est tellement grand que c'est pas facile de l'associer avec quelqu'un.
Voilà Léonie.
Ok, on peut mettre des fleurs avec?
Ah oui, à gauche et à droite, il faut toujours mettre des fleurs au potager avec les légumes parce que du coup, ça va permettre d'attirer des pollinisateurs qui polliniseront les fleurs de courgettes, de courges, de tomates. Donc oui, ça par contre, des fleurs, on en met partout, 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 partout.
Merci beaucoup.
Merci Léonie.
Allez, merci.
Bonne journée, au revoir.
Bonne journée à vous aussi, Léonie. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Alors, ça n'arrête pas de sonner, hein. Je vous le dis, Pascal, quel succès, comme d'habitude. On continue avec François. Bonjour, François.
Bonjour, messieurs.
Vous êtes en Bretagne, bonjour. On vous écoute.
C'est ça, je suis en centre-Bretagne pour situer un petit peu le climat.
Oui.
Alors, je vous explique ma situation. En fait, je fais de l'agroforesterie, c'est-à-dire que je cultive des arbres fruitiers sous lesquels je fais pousser des plantes comestibles. L'idée, c'est à terme de pouvoir nourrir en partie ma famille. Et donc, on a pour ça un grand terrain, on a beaucoup, beaucoup d'arbres. Et je veux m'essayer à la culture de céréales. Et pour ça, j'ai dû retourner une grande partie de... une grande surface de terre. J'ai retourné les mottes d'herbe pour qu'elle meurt et qu'elle se décompose. Et ma question est la suivante. Que me conseille Pascal pour, d'une part, peut-être accélérer la décomposition des mottes, et d'autre part, ensuite, enrichir le sol avant de commencer la culture de céréales en tant que telle? Est-ce qu'il y a des plantes particulières à semer, ou est-ce qu'il me conseillerait plutôt de travailler le sol d'une certaine façon? Ou bien encore de l'enrichir en compost. J'ai des grosses réserves de compost. Voilà.
Ok, alors, du coup, pour continuer à casser les mottes, c'est vrai que ça, c'est toujours l'exercice délicat quand on commence dans une prairie ou dans une friche où on a des mottes d'herbe absolument partout et il faut éliminer les touffes, les systèmes racinaires pour pas qu'elles prennent le dessus sur les cultures suivantes. Donc ça, c'est soit vous avez un peu de temps et en gros vous couvrez votre sol avec des énormes paillages ou voire même des gens qui font ça avec des bâches pour vraiment fatiguer la plante, soit vous retravaillez le sol encore quelques fois pour vraiment finir de casser les mottes. Souvent vous travaillez le sol, ça les retourne et puis elles continuent à germer un petit peu, elles repoussent en étant au-dessus. Donc moi je dirais soit grosse couverture du sol, mais je pense pas que vous alliez faire ça, soit plutôt retravail du sol pour finir de retout casser. Ensuite, pour nourrir, si vous avez des grandes quantités en compost, c'est très bien. Mais moi, si j'étais vous et que si vous avez un peu de temps avant de mettre en culture la céréale, je sèmerais une légumineuse. Une légumineuse, donc famille des fabacées, une févrole, de la veste, enfin la lentille, le haricot, tout ça, c'est des légumineuses. Donc peut-être je sèmerais de la févrole, donc c'est une grosse fève qui va vous permettre une fois vous de décompacter le sol et puis une fois vous l'aurez fauché et remis sur le sol, de lui apporter de l'azote. Ce qui sera plutôt sympa pour vos céréales derrière. Voilà. Et dernier petit truc qui a été prouvé, je vois Melchior qui sourit, qui en a marre de la longueur de la réponse.
Pas du tout. Je m'habitue, ça me permet de travailler à côté, vous savez.
Il envoie des textos par instant.
Non.
Dernier petit truc important quand on mélange des arbres et notamment peut-être des céréales, ça a été prouvé que les arbres qui sont à côté, ils ont tendance à venir dans le champ de céréales avec leurs racines parce que on apporte à manger, parce que voilà, du coup c'est un peu plus fertile. Et donc du coup quand on fait ça, les premières années, moi je vous conseille de continuer à travailler le sol à proximité des arbres pour casser les racines en surface et pour que l'arbre il descende en profondeur pour pas qu'il vienne mettre ses racines dans la parcelle de céréales, mais bien qu'il descende en dessous, parce que à force de casser ses racines, il va comprendre, il va descendre sous les céréales et il gênera moins les céréales.
D'accord. Alors, étant donné que mes fruitiers sont encore jeunes, je pense que je vais peut-être les premières années, c'est peut-être délicat de couper les racines et peut-être attendre quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui. Il faut peut-être attendre quelques années une fois ils sont bien enracinés, mais juste c'est quelque chose qu'il faut pas complètement oublier de faire parce que ça a été prouvé que ça pouvait un peu affecter, on va dire, le rendement des céréales. Donc oui, les premières années on laisse s'enraciner, mais après on fait un petit peu attention pour essayer de les faire descendre en profondeur.
Voilà François.
Okay. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre appel.
Allez,
au 04 72 38 20 23. Tout bon, bah oui. Parce que... peut rire. Allez, continuons avec Marie-Hélène. Marie-Hélène, vous habitez où? Vers Villefranche-sur-Saône. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Je vais vous laisser couper votre radio, s'il vous plaît.
Ah.
Comme ça, il y aura pas d'écho. Si comme ce sera plus agréable pour nos petites oreilles.
Ah,
pardon. Ah oui, là je m'entends. Ouais.
Excusez-moi.
Pas de problème.
Voilà. Oui, moi je téléphone pour une fois une radio. C'est pour, comme votre émission m'interpelle, là, j'ai planté un jour un avocat, un noyau d'avocat, en plusieurs fois j'ai essayé, puis un jour il a pris, et puis je l'ai laissé dans un coin, je l'ai un peu oublié, et il a grandi, ça fait au moins 5 ans, 5 à 8 ans que je l'ai. Et il a grandi dedans d'abord, puis après je l'ai viré dehors. Et d'un autre côté, maintenant, c'est vrai que je savais pas que ça avait des épines. Par contre, ça a des grandes aiguilles. Et il fait peut-être un mètre dix. Et je l'ai mis dehors. Et puis je l'ai laissé. Puis là, les hivers, de temps en temps, je mets un voile dessus, hivernal. Donc je voulais savoir si je le laisse toujours dehors. Et puis, si un voile hivernal dans notre région, si c'est bien pour ce genre d'un avocat ou un noyau d'avocat.
Alors là, je...
Il va falloir appeler un avocat, là.
Vous êtes sûr que c'est un avocat?
Oui.
Parce que généralement, l'avocat, ça je ne sais pas ce que vous appelez des aiguilles, des épines, mais un avocat, ça a pas d'aiguilles, pas d'épines. Ça fait des grandes feuilles pas du tout piquantes et sur le tronc, il n'y a pas du tout de piquant. Et en plus, l'avocat, c'est vraiment pas mal sensible au froid. Et donc, j'ai du mal à le voir vivre dehors, à Villefranche-sur-Saône, même avec un voile d'hivernage.
Il était dans un angle d'une maison, de ma maison, puisque j'habite en location. Et Il y a le garage du voisin sur ma terrasse, et une partie de ma maison. Donc je l'avais calé entre eux, comme ça.
Ça j'entends, ok. Sur la description de la plainte, avec des aiguilles et tout, j'ai un petit doute sur le fait que ça soit un avocat, c'est étrange. Est-ce que vous pouvez pas, aujourd'hui ou la prochaine fois, envoyer une photo de la plainte à Melchior via, je sais pas,
Internet.
Oui. Ouais, c'est ça. Et comme ça, moi, si je la vois, peut-être ça m'aidera. Mais voilà, moi, un avocat avec des aiguilles, je connais pas.
C'est des aiguilles comme les acacias, c'est même plus fines.
Non, mais c'est pas un avocat.
Pourtant, c'est des oignons d'avocat. C'est le.
Oui, mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il y avait pas dedans genre aussi des pépins de citron? Et des fois, les citronniers, ça a des piquants, plein de fois. Et est-ce qu'il n'y avait pas en même temps des pépins de citron dans le mélange que vous avez mis, parce qu'il y avait un peu de compost, je sais pas quoi, et c'est plutôt les pépins de citron qui sont sortis?
Parce que j'essaye de faire pousser des pépins dans du coton. Moi, là, c'est long.
Marie-Hélène, dans ce cas-là, essayez d'envoyer une photo. Si vous pouvez, vous l'envoyez par mail à l'adresse direct@rcf.fr et puis on va étudier ce cas. Hein.
Oui, d'accord.
Ça vous va?
Je ne sais pas faire ça.
Ah.
J'ai pas l'habitude, alors je sais rien, parce que moi, avec mes enfants, quand on s'envoie des photos, c'est par WhatsApp.
Eh ben, c'est pareil, vous l'envoyez sur WhatsApp au 04 72 38 20 23, je peux recevoir les photos.
Ah d'accord.
Voilà. Merci Marie-Hélène. Bien. Et
allez,
puis on va regarder cette affaire.
On attend la photo.
Ah oui, c'est assez intéressant. Vous pensez qu'il y a eu une petite erreur de pépin, Pascal?
Ouais, franchement, j'en suis quasiment sûr. Par contre, qu'est-ce que c'est comme plainte, j'en sais rien. Mais bon, moi, je mets un petit billet sur un petit citronnier qu'a germé, mais peut-être je me trompe.
Bon. On verra bien. Je rappelle que vous pouvez tenter de gagner un exemplaire du hors-série du magazine Les 4 saisons de Terre Vivante ce matin. Un hors-série consacré au jardin-forêt, expérience et témoignages avec de très très bons conseils, de bonnes pratiques également, pour bien débuter d'ailleurs. Donc pour tenter de remporter un exemplaire, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr, direct@rcf.fr. Pascal, continuons avec Christiane et on va dans la Drôme. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est pour vous demander, s'il vous plaît, comment tailler j'ai trois groseilliers, mais qui sont anciens et ils donnent très très peu, quoi, ça compte pas à côté du début. Alors, est-ce qu'il faudrait les tailler bien bas ou dites-moi voir qu'est-ce qu'il me faut faire et à quelle époque? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans un mois? Ainsi que tailler les rosiers également.
Ok, donc on va commencer par les groseilliers. Donc les groseilliers, pour qu'ils produisent, faut sans arrêt les rajeunir. C'est-à-dire que ils produisent, donc ils font des fleurs et des fruits sur les pousses qui ont 2-3 ans, etc. Mais si vous le taillez jamais, les branches vieillissent et au bout d'un moment, elles produisent plus du tout. Et donc du coup, il faut être capable d'enlever les branches les plus vieilles pour favoriser régulièrement tous les ans l'apparition de nouvelles pousses qui sont celles qui produiront dans 2 ou 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le régénérer sans arrêt. Couper les branches les plus vieilles. Généralement, les branches les plus vieilles, elles sont à la périphérie, elles ont des gros diamètres avec des écorces un peu vieilles. Virez tout ça. Virez tout ça pour favoriser les nouvelles pousses. Par contre, vous aurez pas forcément une production cette année parce que du coup, les nouvelles pousses cette année seront toutes jeunes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez une production l'année prochaine. Et je vous dis ça parce que la Drôme, généralement, c'est pas le climat le plus frais de France. Les groseilliers, ça supporte quand même pas très bien la sécheresse et le plein soleil quand il fait très chaud l'été. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi peut-être que il a vieilli, mais que en plus dans la Drôme, il fait très chaud, peut-être très sec selon les endroits pendant l'été, et du coup que le groseiller, il adore pas ça. Donc nourrissez-le et si vous pouvez, bichonnez-le, arrosez-le un peu plus, mais avant tout taillez-le. Oui, taillez les plus vieilles branches.
Oui, être le déplacer, alors, parce que moi, il y a plein soleil, très près.
Ah ben ouais, alors si vous pouvez le déplacer, c'est royal, et là, c'est maintenant qu'il faut le déplacer, là.
D'accord.
La taille, le déplacement, c'est maintenant, donc là, si vous pouvez, après, s'ils sont trop gros, ils sont durs à déplacer, mais si vous pouvez, oui, vous les mettez mi-ombre. Le mieux, c'est mi-ombre, à l'ombre, aux heures les plus chaudes, ça sera nettement mieux.
Bon, et par contre, la taille des rosiers, c'est un peu tôt, hein?
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le risque de tailler maintenant, c'est des fois de les réveiller un peu et qu'ils commencent à bourgeonner. Et si un froid arrive, ça va abîmer les bourgeons. Donc allez, à part dans les climats très chauds, on attend un petit peu quand même encore.
Bon, disons une quinzaine de jours, début mars.
Ouais, début mars, c'est très bien, moi je trouve.
Surtout dans la Drôme.
Merci.
Oui.
Merci beaucoup, Christian.
Merci pour vos conseils. Au revoir.
Eh ben, il faut remercier Pascal Aspe qui répond à toutes vos questions de jardinage au 04 72 38 20 23. Est-ce que vous allez regarder les Victoires de la musique cette année, Pascal?
Ah non, alors non, c'est vraiment un truc que je regarde pas.
En tout cas, je peux juste vous informer que il y a une artiste qui cartonne et qui a été nominée, je crois, à près de 5 fois. C'est Zao de Sagazan qu'on va écouter tout de suite avec la Symphonie des éclairs. C'est une très très belle chanson. Ah ben voilà, c'est tout pour vous, Pascal. Et en attendant, vous nous appelez avec vos questions de jardinage. Il nous reste un quart d'heure. Allez-y, profitez-en. 04 72 38 20 23. Pascal est chaud, Pascal est motivé pour répondre. À toutes vos questions, à tout de suite.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
C'est beau, hein, Pascal, cette chanson.
Tout à l'heure, j'hésitais entre Francis et celle-là. J'espère qu'on aurait les deux, mais j'adore.
Zao de Sagazan, la Symphonie des éclairs, qui était donc nommée 5 fois pour les Victoires de la musique. C'est quand même assez incroyable. Dans les catégories révélation féminine, révélation scène, album, chanson et création audiovisuelle. Okay. Voilà, donc à suivre pour... elle va certainement remporter d'ailleurs, on verra bien. De toute façon, vous nous direz puisque vous allez regarder cette année.
J'attends le texto, Melchior, j'attends le texto.
Je vais pas me gêner.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Une question de François. Que pensez-vous de l'association des patates douces avec les tomates? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
J'aurais envie de dire, sur le papier, ça peut marcher. Après, il faut toujours se méfier des légumes qui sont sous terre. dans le sens où quand on les récolte, ben on chamboule un petit peu le sol. Quand vous allez récolter vos patates douces, ben vous allez un peu chambouler le sol. Et si vos tomates, elles se sont enracinées un petit peu partout, ben vous allez casser les racines des tomates. Donc j'ai envie de dire, ça peut marcher. Mais attention, peut-être de pas faire trop de proximité et tout ça, pour que quand on récupère les patates douces, eh ben on casse pas les racines de tomates en pleine saison ou fin de saison, ce qui du coup leur ferait un préjudice quand même pour la gestion de l'eau et leur croissance.
Ouais, François, il complète d'ailleurs sa question en demandant si ce sont des cultures trop gourmandes pour être associées.
Alors ça, comment dire? Des fois, on dit effectivement que quand on associe les plantes, on associe une plante gourmande avec une plante moins gourmande. Comme ça, il n'y a pas de compétition sur la fertilité, ce qui est vrai. Mais par contre, si François, il a plein de compost, il a des tonnes de compost, des tonnes de fumier, eh ben du coup, il met plein de compost dans son sol. Vous voyez, il aura largement assez pour nourrir les deux. Donc, cette remarque, elle va bien si on n'est pas capable de beaucoup nourrir le sol.
Oui.
Mais si on est capable de beaucoup nourrir le sol et que c'est un repas gargantuesque, on peut inviter tous les plus grands gourmands de la terre, ça ira quand même.
Allez, bon courage François pour cette association. Une question de Cécile à propos d'un azalée ou une azalée du Japon. Je ne sais jamais si c'est féminin ou masculin.
Moi, je dirais une. Mais
une, bon bah voilà. Une azalée du Japon en pleine terre dans un endroit ombré depuis 2 ans. Elle n'a pas fleuri l'an passé et cet hiver, elle a perdu toutes ses feuilles. Que se passe-t-il? Dois-je lui choisir un endroit plus ensoleillé?
Ouais, alors elle est, on sait où elle est. Cette dame
En Savoie.
En Savoie, ok. En fait, alors du coup, l'azalée du Japon, elle aime bien les sols assez, on va dire, assez frais, assez drainés. Elle aime pas trop le calcaire. Voilà. Et généralement, ça tient quand même assez bien en extérieur. Et c'est plutôt ombre ou mi-ombre. Donc là, je crois que c'est le cas, non? C'est ombre là, non? Carrément.
Oui.
C'est ça. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Mais le truc qui rate peut-être, c'est les besoins en eau. Les besoins en eau, ils sont assez importants. Et peut-être que jusqu'à maintenant, en Savoie, les besoins en eau, ça allait parce qu'on est un peu en montagne, on est dans une région un peu humide et il pleuvait, elle était bien. Mais peut-être que depuis 2 ans, eh ben, ça fait 2 ans où les étés sont secs, même en Savoie et tout ça, eh ben, peut-être qu'elle commence à accuser le coup. Et du coup, moi, je dirais plutôt, mais peut-être je me trompe, que c'est un problème d'eau. En fait, au final, elle manque un peu d'eau.
Eh bien, voilà, Cécile, bon courage avec ces problèmes d'eau. Faites attention. Et puis, si jamais il y a un souci, vous nous rappelez au 04 72 38 20 23. D'ailleurs, on va retourner au standard. Hélène de Saint-Étienne est avec nous. Bonjour, Hélène.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'ai des roses trémières chez moi et je ne sais pas pourquoi. En ce moment, les feuilles sont très jolies, mais elles commencent un peu à être attaquées par, je ne sais pas quoi. Et en fin de saison, ces feuilles sont toutes rousses dessous, enfin rouillées dessous.
Oui, et
ça perturbe certainement la plante parce que j'arrive pas d'une année sur l'autre, j'ai jamais trop traité. Donc, étant donné qu'on a un spécialiste là qui peut peut-être me renseigner.
Un vrai spécialiste, oui.
Ah, ouais, alors ce que vous avez, c'est la rouille en fait sur les roses trémières. Donc c'est hyper classique d'avoir la rouille sur la rose trémière et du coup elle fait ces espèces de taches marron comme vous dites sur les feuillages. En fait, c'est un champignon et ce champignon il reste l'hiver sur les feuilles qui sont tombées au sol, etc. Donc ça, c'est le grand classique de la rose trémière, c'est d'avoir de la rouille. Enfin, je veux dire, c'est exceptionnel et du coup cette rouille est forcément favorisée par les temps, on va dire un peu chaud et humide. Donc si vous habitez dans une région où l'automne est humide ou je sais pas quoi, ben c'est normal d'avoir de la rouille. C'est pas du tout un drame, c'est pas très joli, mais généralement les roses trémières elles survivent à cela. Par contre, oubliez pas que la rose trémière théoriquement c'est une bisannuelle. Donc une bisannuelle, ça veut dire que en gros, une graine tombe dans le sol, l'année 1, elle fait des feuilles, après elle passe l'hiver endormie et l'année 2, elle fleurit et après elle meurt. Donc c'est normal d'avoir des roses trémières qui meurent régulièrement parce que elle est censée fonctionner comme ça. Ça arrive que dans les climats doux, elles deviennent vivaces, elles restent là pendant plusieurs années, mais c'est pas étonnant de les voir régulièrement mourir et se ressemer un petit peu partout à gauche à droite dans le jardin. Mais par contre, comme c'est une bisannuelle, apprenez à reconnaître les feuilles parce que la première année, elle ne fera pas de fleurs, elle ne fera que des petites feuilles et du coup, faut surtout pas tout désherber parce que si vous désherbez toutes les feuilles cette année, il y aura jamais de fleurs l'année prochaine.
Mais il n'y a pas de traitement approprié à...
Ah, moi, je... alors, bien sûr qu'il y en a, mais je vais pas vous les donner parce que c'est tellement pas grave. En fait, il y a tous les anti-champignons classiques que vous pouvez trouver dans le commerce peuvent fonctionner. Le classique, c'est du cuivre, c'est de la, enfin, voilà, et donc du coup, ça marche. Mais j'ai envie de dire, c'est néfaste pour le sol, c'est néfaste pour plein de choses, le cuivre. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'abîmer le sol pour éviter d'avoir des taches sur les roses trémières? Moi, j'ai envie de vous dire non.
Bon. Moi, je les coupe, mais ça porte préjudice peut-être aussi de les couper.
Ah ben forcément la plante elle fait un petit peu moins de photosynthèse. Donc moi ce que je vous conseille c'est de les ramasser, les éloigner. Vu que les spores ils passent l'hiver sur les feuilles, ben l'hiver enlever les feuilles pour pas qu'il y ait trop de spores en dessous. Peut-être déjà ça ira un petit peu mieux.
Voilà Hélène, merci beaucoup pour votre question ce matin dans Prenez-en de la graine. Question très rapide par écrit, réponse rapide Pascal. Quel est le meilleur moment pour planter en pleine terre un laurier rose qui est en pot déjà à l'extérieur?
Eh ben, même réponse qu'au début. Si vous êtes dans un climat propice au laurier rose, un climat chaud, vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous êtes dans un climat où il fait vraiment froid et que du coup c'est un peu risqué, attendez un peu pour ne pas le mettre en pleine terre alors qu'il va y avoir encore des fortes gelées.
Voilà, pour Jean-Luc, quel succès, c'est laurier rose, c'est incroyable.
Ouais,
tout
incroyable.
Au long de l'émission, on a eu plein de questions. Alors que c'était
pas du
tout le thème.
On a commencé avec du laurier rose et on finit avec du laurier rose.
Oui, alors non, on va peut-être finir avec une autre plante puisqu'on accueille Nadine. Très rapidement, Nadine, bonjour.
Bonjour messieurs. Alors une
Bonjour.
Petite question donc pour Pascal. Le semis pour semer des graines, est-ce que c'est mieux de semer en lune montante?
Ah alors là vous parlez du calendrier lunaire. Donc effectivement.
Donc, lune montante et lune descendante et pour réussir ces semis, est-ce que ça a une importance de
semer
en lune
montante? En fait. Ouais, en fait, il y a là vous parlez du calendrier lunaire oui. où il y a tout plein de choses. Moi, je vais vous dire, je vous dis pas que ça marche pas, mais moi, ce que je vous dis, c'est n'en faites pas cas. Enfin voilà. Et là, je parle de mon expérience et je critique pas ceux qui le font. Moi, je ne fais jamais attention à ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça quand vous avez le temps, et en plus quand c'est le bon moment dans votre calendrier de culture. Donc d'abord, vérifiez, peu importe la lune montante ou descendante, faites-le quand vous en avez le temps. Après, bien entendu que le calendrier peut avoir une petite influence, mais je crois que c'est pas la priorité.
Voilà, faut pas demander à la lune. Merci beaucoup Nadine pour votre appel, donc prenez-en de la graine. Pascal, vous entendez le générique?
Oui, ça veut dire que c'est la fin.
Bah, c'est la fin, malheureusement.
Je suis triste.
Mais heureusement, on se retrouve dans un mois, à peu près. Je crois le 1er ou 2 mars. Ce sera avec grand, grand plaisir. Merci Pascal Aspe, une fois de plus, pour
tous vos conseils.
Jardinier et formateur à Terre Vivante, je rappelle une dernière fois que vous pouvez tenter de remporter un exemplaire du hors-série du magazine Les 4 saisons de Terre Vivante intitulé Jardin, expérience et témoignage avec vraiment de bons conseils, de bonnes pratiques pour débuter et pour tenter de remporter un exemplaire. Vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse direct@rcf.fr. Bonne chance à tous. Merci Pascal. À plus dans le bus, comme on dit. Merci à Christophe et Catherine à la réalisation. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à lundi dans Je pense donc j'agis.